bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour la première d'une série de quatre conférences Daniel Heller-Roazen, professeur à l'Université de Princeton, qui nous a fait le plaisir et l'honneur à ses collègues du Collège de France d'accepter leur invitation pour parler des harmonies et des disharmonies du monde. Alors, l'avantage qu'il y a à recevoir Daniel Heller-Roazen, c'est que tout le monde le connaît, donc on n'a pas à faire de grands efforts de présentation. Beaucoup d'entre vous ont lu ses ouvrages, et parce que ce n'est pas seulement une personnalité d'exception, mais c'est, malgré son âge tendre, une vedette sur la scène intellectuelle internationale. Et certains d'entre vous ont eu l'occasion de l'entendre en mai dernier, lors du colloque « Lire un texte vieilli du Moyen-Âge à nos jours » qui avait été organisé entre le Collège de France et l'Académie des inscriptions, dans le cadre de laquelle il s'était exprimé. Donc vous savez que Daniel Heller-Roazen est un philosophe et un philologue, et que la conjonction des deux donne des résultats extraordinaires. C'est un philologue qui connaît toutes les langues, à peu près toutes les langues anciennes, et un très grand nombre de langues modernes. Et c'est, comme c'est un philosophe-philologue, c'est un philosophe qui prend au sérieux les textes, et en particulier les textes littéraires. Ce qui est extrêmement satisfaisant et rassurant pour nous autres, les pauvres littéraires, qui pensons peu et qui avons l'impression que ceux qui pensent traversent la surface du texte pour aller tout de suite chercher une profondeur qui nous échappe, alors que nous, nous vivons de la surface et de ces miroitements. Alors, Daniel Heller-Roazen est profond, mais il sait ce que c'est que la surface du texte littéraire. Et un homme qui parle de son, de maître et de nombre, comme il va le faire ce soir, ne peut que le savoir. Vous savez que son premier livre était un livre de médiéviste, qui me va droit au cœur, sur le roman de la Rose, mais un livre qui abordait, encore une fois, sans traverser tout de suite l'épaisseur poétique du texte, qui allait à un problème philosophique majeur, abordé par Jean de Main, qui avait une longue tradition d'expression littéraire depuis de Boès, et la figure de Fortune, la question des futurs contingents. Et c'était un livre de 2003. En 2005, il a publié un livre traduit en français dès 2007 sur l'oubli des langues, Écolalie, qui s'interroge sur la conservation et la disparition du langage chez les individus et dans les communautés linguistiques. Et à travers une multitude d'exemples linguistiques et à travers une multitude d'approches littéraires, médicales, théologiques, linguistiques, que sais-je. En 2007, c'est un homme qui change de sujet constamment et chaque fois avec le même talent et la même profondeur, « The Inattached Archaeology of a Sensation », qui s'interroge sur la sensation intérieure, sur ce toucher intérieur qui, grâce auquel on a le sentiment à la fois d'être soi-même, séparé du monde extérieur, et d'être vivant, en commençant par Aristote et en continuant. Et puis, à l'automne 2009, alors un sujet radicalement différent, « The Enemy of All, Piracy and the Law of Nations », vous pardonnerez mon accent anglais, donc un livre sur les pirates. Et effectivement, les pirates, c'est un grand problème depuis l'Antiquité, depuis Pompée, depuis le Déophikis, par lequel il commence, mais c'est un problème que nous pensions résolu, et nous vivions dans la nostalgie de l'île au trésor, jusqu'à ce que l'époque strictement contemporaine ressuscite tragiquement la piraterie. problème. De sorte que c'est un problème juridique, philosophique, n'est-ce pas, ce pirate qui est hors du genre humain et qui lui appartient cependant, et un problème politique, en somme, majeur. Et puis, alors parce qu'on croit toujours en avoir fini, mais comme il écrit plus vite qu'on parle... Et plus vite qu'on ne pense, mais en tout cas, je pense beaucoup plus lentement que je ne parle. Il a publié récemment, enfin, une traduction qui n'est pas la sienne, une réédition partielle de la grande traduction des Mille et une nuits parue récemment en anglais, avec une introduction et des notes du maître, parce qu'on demande toujours à une célébrité de promouvoir ce genre d'ouvrage. Donc, ces quatre conférences vont porter sur harmonie et disharmonie du monde. Et ce soir, il nous parle du son, du maître et du nombre, de Pythagore à Niccolò Rem, donc avec un ambitus chronologique suffisant. Mon cher Daniel, c'est à vous.
Merci. Merci. Je tiens à remercier monsieur le professeur Michel Zinck, ainsi que l'ensemble des professeurs du Collège de France, de m'avoir invité à donner ces quatre conférences. C'est pour moi un très grand plaisir de vous présenter ces travaux. Pythagore ne se fiait guère à son ouïe. Sans doute acceptait-il que les organes de la perception pussent, à l'occasion, mener l'esprit vers quelques vérités. Mais il savait que les sens peuvent aussi nous induire en erreur. Car il comprenait que l'audition, corporelle et corruptible, est vouée à une instabilité sans fin. Tantôt elle varie sous l'effet de circonstances extérieures et accidentelles. Tantôt elle diffère selon les lois des nécessités naturelles, comme l'âge. Le maître n'en attendait pas davantage des outils techniques, puisqu'il tenait que les instruments musicaux était source de mutation et d'inconstance. Pythagore avait observé la nature des cordes sonnantes, qui s'altèrent sous l'effet d'innombrables causes. En vertu de la matière dont elles se composent, de leur longueur et de leur épaisseur, de l'humidité ou de la sécheresse de l'air qui les environne, de l'intensité de la vibration qui leur est appliquée, chaque corde émettra un bruit divers. Il en va de même des autres instruments. La seule certitude que l'on puisse avoir à leur égard est qu'avec le temps, leur état se modifiera et qu'alors leurs tons changeront aussi. Ainsi, comme le rapporte Boès au livre premier de son traité de musique, Pythagore décida-t-il d'abandonner le jugement de l'oreille et de se tourner vers l'instance des règles. En se détournant de toutes les données sensibles, il parvint à définir un projet qui était à la fois scientifique et philosophique. Comprendre l'ordre du monde sans se livrer aux vicissitudes des corps muables. Saisir la nature des sons sans s'en remettre pour autant à leur forme variable. Son projet présentait les traits d'un essai unique et rationnel. Pourtant, il était voué à l'échec. Selon Boès, lorsque Pythagore entreprit de se détourner de ses sens, il fut soudain distrait. Comme mu par une inspiration divine, ce sont les mots de Boès, comme mu par une inspiration divine, Pythagore quitta le lieu où il se consacrait habituellement à ses calculs et à l'étude. Bientôt, il se retrouva devant un atelier d'artisan. De l'intérieur de ce modeste bâtiment provenait le son de plusieurs instruments. De la diversité des coups de marteau, écrit Boès, émergeait en quelque sorte un seul accord. Pythagore eut immédiatement une idée confuse de ce qu'il venait de découvrir. C'est ainsi, peut-on lire, qu'en présence de ce qu'il cherchait depuis longtemps, il s'approcha, tout étonné, de l'ouvrage. La merveille de ce seul accord allait bientôt faire l'objet de sa réflexion. Manifestement, le bruit n'était pas sans cause, car il se ramenait à l'art des hommes, exercé au moyen d'outils dans un lieu particulier. Pythagore chercha à saisir la raison de cette coïncidence de son. Mais décidément, la tâche était ardue. Comment distinguer les ouvriers de l'ouvrage et le martèlement des marteaux? Après mûre réflexion, il fut d'avis que la diversité des sons dépendait de la force des ouvriers. Et pour que cela apparût plus clairement, il leur ordonna d'échanger leurs marteaux. Les artisans se remirent alors à l'ouvrage. Cependant, la singulière consonance persistait. Une conclusion, du moins, s'imposait. La propriété des sons ne tenait pas à la vigueur des hommes. Elle était inhérente aux marteaux que l'on venait d'échanger, puisqu'elle suivait leurs mouvements. Mais l'accord, en vérité, était immobile. Le lieu d'où il émana était stable, et il résidait non pas dans le corps des artisans, mais dans leurs divers instruments. Plus précisément, l'accord dérivait de l'une de leurs multiples propriétés. Celle-ci n'était sans doute que secondaire par rapport à leur qualité propre d'instrument. C'était la propriété de posséder une masse, en tant que celle-ci peut être mesurée avec exactitude. Très vite, Pythagore saisit ce simple fait. Le seul accord résultait des rapports entre les divers poids des marteaux, lesquels produisaient en eux-mêmes un ensemble de sons fort agréable. Aux yeux de Pythagore, les rapports entre les poids des divers marteaux se définissaient plus précisément dans les termes de l'arithmétique gréco-latine. Or, explique-t-il, il se trouvait que les marteaux étaient au nombre de 5. Pythagore en identifia un qui pesait le double de l'autre. Il se répondait à la consonance de l'octave. Celui qui faisait le double de l'autre était en rapport séquitierce à l'égard d'un autre avec lequel il résonnait à la carte. Il découvrit ensuite que ce même marteau, celui qui était le double de l'autre, était en rapport séquialtère à l'égard d'un autre avec lequel il formait une consonance de quinte. En revanche, il découvrit que les deux dont il fut prouvé que le premier et le double étaient en rapport séquitierce et séquialtère à leur égard observaient mutuellement un rapport séquioctave. Ces rapports, reconnaît Boèce, peuvent aussi se dire plus simplement. Pour se représenter les données de la forge, il suffit d'imaginer une série de quatre nombres naturels. Pour la clarté du propos, ajoute Boèce, prenons à titre d'exemple quatre poids de marteau représentés ci-dessous par les chiffres 12, 9, 8, 6. Pythagore comprit immédiatement que ces découvertes étaient capitales. Sans plus se soucier des outils, il quitta l'atelier et rentra chez lui. Par de nouveaux moyens, il répéta et confirma son expérience acoustique. Tantôt il adaptait aux cordes des poids équivalents et appréciait à l'oreille leur consonance, tantôt il reportait le double sur la longueur des roseaux, rajoutait une moitié et réalisait tous les autres rapports. Puis il versait dans des récipients un nombre de quantités liquides d'un poids équivalent et il frappait à l'aide de baguettes d'airain ou de fer ces récipients de poids divers. Finalement, il passa à l'examen de la longueur et de l'épaisseur des cordes en poursuivant ses recherches. Ainsi arriva-t-il à des conclusions dont l'illustration la plus limpide est fournie par ce simple outil acoustique qu'est le monocorde. Cet instrument consiste en une corde unique, tendue au-dessus d'une caisse de résonance, attachée aux deux bouts, et dont la longueur vibrante se laisse modifier par un chevalet, que l'on peut déplacer à volonté. À en croire Boèce, Pythagore avait accompli avec son monocorde un acte scientifique majeur. Il était parvenu à représenter des lois physiques à travers les signes stables des mathématiques. Sa méthode était simple et sa démonstration cristalline. Si l'on fait vibrer une corde à vide, elle émettra un son. Il est manifeste que lorsqu'on réduit la longueur de la corde, son ton devient de plus en plus aigu. Mais dans le bourdonnement qui suivit sa visite à l'atelier, Pythagore avait compris davantage. Car il avait constaté qu'il existe des régularités entre les sections de la corde vibrante et les modifications du son, c'est-à-dire entre des phénomènes géométriques et des phénomènes acoustiques. D'abord, ce furent quatre équivalences fondamentales qui s'imposèrent. Pythagore partit de la corde à vide, qui émet un certain ton. Lorsque sa longueur se voit réduite de moitié, elle produit un deuxième ton, qui sonnera très exactement une octave au-dessous du premier. Alors la corde aura émis l'intervalle que les anciens appelaient diapason. Lorsque l'on divise la longueur de la corde initiale en trois parties égales, dont on ne fait vibrer que deux, un deuxième intervalle se rend audible, c'est la quinte, que les Grecs et les Latins connaissaient sous le nom de diapente. Lorsque la corde se voit segmentée en quatre sections égales, dont on ne fait vibrer que trois, on aura produit un ton qui se distingue du ton de l'accord David par l'intervalle de la carte, autrefois appelé diatessaron. Et enfin, si l'on retranche 8 neuvième de la corde entière, cette section vibrante émettra un ton qui se distinguera de l'accord David par l'intervalle du ton entier. Le sens de ces quelques observations physiques était profond. L'apparente complexité des sons avait soudain acquis une nouvelle simplicité. Des différences de ton pouvaient s'exprimer par des proportions géométriques. De plus, si l'on réduisait ces rapports entre extensions à des rapports entre des nombres entiers, on aboutissait alors à une représentation arithmétique du son. Ainsi, une part du cosmos se laissait transcrire. Non pas au moyen des lettres des alphabets humaines, qui, certes, diffèrent entre elles, mais par ces multiples collections d'unités auxquelles les anciens avaient donné le nom de nombre. Les conséquences de ce fait étaient majeures. Dans les corps sensibles, on retrouvait des êtres incorporels et intelligibles. Dans ceux qui se génèrent et qui donc se corrompt, brillait un être éternel. À travers ses analyses du son, Pythagore était parvenu au fondement de sa métaphysique. Celle-là même qu'Aristote résuma dans une célèbre série de thèses lapidaires. Les choses et les nombres sont identiques. Les choses sont semblables aux nombres. Les choses et les nombres se composent des mêmes éléments. Il va de soi que ces propositions suggèrent des doctrines variées, voire contradictoires. Mais les thèses du pythagorisme aristotélicien évoquent du moins cet unique programme philosophique. Celui qui voyait dans l'idée de nombre l'élément grâce auquel on pourrait déchiffrer l'ordre de la nature. Que ce projet eût trouvé ses origines dans un événement acoustique, que Pythagore n'eût pas été seulement savant, mais savant auditeur, inventeur de la musique aussi bien que des mathématiques, voilà qui paraît aujourd'hui curieux. Mais dans l'Antiquité tardive, le choix que fit Boès apparaissait traditionnel. Dans le monde classique, les disciples du maître grec avaient atteint une renommée incontestée dans les recherches en acoustique et en mathématiques. Plusieurs auteurs indiquent que les premiers pythagoriciens avaient considéré les consonances audibles comme l'illustration des lois des nombres. 1000 ans avant Boès, Platon pouvait faire allusion dans la République à ces pythagoriciens qui cherchaient les causes arithmétiques des intervalles. Dans les chapitres de sa métaphysique qu'il consacra aux doctrines de ceux que l'on appelle pythagoriciens, Aristote évoque des études fort similaires. Ils s'appliquèrent aux mathématiques, écrit-il, et ils furent les premiers à développer cette science. Puis, ils vinrent par elle à croire que ces principes sont les principes de tout. Puisqu'ils voyaient que les nombres sont, par leur nature même, les premiers parmi ces principes, et puisqu'ils voyaient aussi que les propriétés et les rapports de l'harmonie ont comme fondement les nombres, il leur apparut évident que toutes les choses aussi ont une nature fondée sur les nombres et que les nombres sont les choses ultimes dans le monde. Dans un fragment attribué à un traité aristotélicien désormais perdu sur les pythagoriciens, on retrouve des indications plus explicites encore. S'étant consacré aux mathématiques et ayant admiré l'exactitude de leurs arguments parce qu'elles seules parmi les activités humaines relèvent de la preuve, les pythagoriciens ont considéré l'effet de l'harmonie comme relevant des nombres. Ils ont jugé que les faits mathématiques et leurs principes sont la cause de toute chose existante. Tous ceux qui désirent comprendre la nature des choses existantes, enseigna-t-il, devraient donc se tourner vers eux, c'est-à-dire vers les nombres et les rapports, car c'est à la lumière de ceux-ci que tout s'éclaircit. La tradition suggère un Pythagore historique, vivant au VIe siècle. Né à Samos, il aurait quitté l'Ionie pour la Grande Grèce vers 530. Avant Christ. Aucun de ces textes, s'il y en eut un jour, ne survit aujourd'hui. Bien que des témoignages attestent des enseignements pythagoriciens dans l'Italie méridionale à partir du 5e siècle, les œuvres des premiers disciples nous sont inconnues. Pourtant, il semblerait que les indications que l'on retrouve dans la République et dans la métaphysique ne soient pas tout à fait trompeuses. Si l'on en croit les récits transmis au sujet de Hippas de Métaponte, le premier pythagoricien dont il nous reste trace, ce penseur fut à la fois mathématicien et acousticien. Les fragments attribués à Philolaos de Croton, qui constituent les plus anciens textes pythagoriciens, indiquent que ce philosophe du 5e siècle avant notre ère avait entrepris des enquêtes d'une semblable nature. Ces réflexions s'inscrivent dans la théorie des nombres et dans l'étude des rapports musicaux. Dans son quatrième fragment, on lit que toute chose connaissable contient des nombres, sans lesquels rien ne serait ni pensable ni connaissable. Il est probable que Philolaos ait cherché à étayer cette thèse par les régularités des consonances, puisqu'une grande partie de ses textes consiste en analyse arithmétique des intervalles musicaux. Pour Philolaos, comme pour Empédocle et Héraclite, l'harmonie, harmonia, était un principe d'union cosmique, lequel se rendait perceptible dans des rapports naturels. Mais ce penseur pythagoricien paraît avoir tenu que ces rapports sont numériques par essence. De plus, comme l'a observé Charles Kahn, le trait distinctif des nombres de Philolaos, c'est qu'ils sont disposés selon des rapports qui correspondent aux trois consonances musicales majeures, c'est-à-dire à l'octave, à la quinte et à la quarte. Des considérations acoustiques semblent animer la première thèse de son fragment premier, qui énonce que la nature du cosmos résulte de l'harmonie, de l'illimité et du limité. Les pythagoriciens ultérieurs accordent une égale importance à l'étude mathématique des lois de la consonance musicale. Ce célèbre ami de Platon que fut Archytas de Tarente érigea les affinités entre les domaines de l'arithmétique et de la musique en point de doctrine explicite. Pour lui, les deux champs n'étaient que deux disciplines jumelles. C'est un principe que l'on retrouve souvent chez les pythagoriciens. Dès les premiers siècles de l'ère chrétienne, quand l'école de Pythagore se fut imposée, l'assimilation de l'étude du nombre à l'étude du son devint un lieu commun. Au IIe siècle, quand Nicomaque de Gérase composait ses traités d'arithmétique et d'harmonique, il présentait ainsi ses œuvres mathématiques et musicales comme deux branches d'un même système de pensée pythagoricien. Lorsque Jean Blic a entrepris un siècle plus tard de documenter la vie et les thèses du maître de Samos, la doctrine était déjà canonique. Le livre 3 de sa Summa Pythagorica présente la musique, musiquée, comme une discipline non moins mathématique que l'arithmétique et la géométrie. Car toutes trois, peut-on lire, ne sont que les anneaux d'une chaîne qui forment un lien unique, comme le dit le très divin Platon. Pourtant, il serait erroné de conclure que les auteurs anciens voyaient en Pythagore un musicien, du moins au sens moderne du terme. La musique paraît avoir intrigué le sage, non pas tant comme pratique instrumentale que comme une branche fondamentale d'un savoir mathématique. À cet égard, l'institution d'arithmétique de Boès est particulièrement précieuse. Dans ses premières pages, Boès dresse un portrait exemplaire des savoirs que reconnaissaient les pythagoriciens de l'Antiquité. Le lecteur y apprend que toutes les autorités antiques s'accordent en ceci qu'elles prennent le savoir mathématique pour la sagesse à laquelle aspirent les écoles philosophiques. Définie selon sa nature, une telle sagesse se révèle être la compréhension de la vérité de ces choses qui possèdent leur essence propre et immuable, c'est-à-dire l'entendement de ces choses qui n'augmentent pas par extension, ni ne diminuent par réduction, ni ne changent par variation, mais qui se tiennent dans leur propre force, en vertu de leur propre nature. Boès offre une longue liste de ces choses. Ce sont les qualités, les quantités, les rapports, les actes, les dispositions, les lieux et les temps. Chacun de ces êtres est incorporel, puisque chacun possède une essence immuable qui ne saurait varier. Certes, le philosophe reconnaît que de tels êtres peuvent être affectés par la participation à un corps ou par contact avec quelque chose de variable. Une fois lié à des choses particulières, il passe alors à un état d'inconstance, d'inconstante variabilité. Cependant, il est possible de considérer une quantité comme une qualité, un rapport, un acte ou une disposition en soi, comme de purs objets de pensée. C'est à de telles idéalités, explique Boès, que l'on donne le nom d'essence. Il y a deux types d'essence. L'un est continu, joint dans ses parties et non pas distribué dans ses parties différentes. C'est le cas de l'arbre, de la pierre et de tous les corps de ce monde. Ces continuités, peut-on lire, sont proprement appelées magnitude, magnitudines. L'autre sorte d'essence est celle qui est en elle-même disjointe et déterminée dans ses parties, comme si elle se réduisait à une seule union collective. C'est le cas d'une troupe, d'un peuple, d'un corps, d'un tas de choses dont les parties se terminent dans leurs extrémités et se distinguent des extrémités d'autres parties. Ces discontinuités sont proprement appelées multitude, multitudines. Une essence continue se partage de manière illimitée. Car, écrit Boèce, à partir d'une quantité finie, une magnitude ne reçoit guère de nouvelles manières d'être par le fait de se diviser. Son nom peut se prédiquer même de la partie la plus minimale de son corps. Ainsi, la ligne, le cercle, la pyramide, tous peuvent se réduire infiniment. Pourtant, quelle que soit leur taille, chacun d'entre eux retiendra son identité. Par opposition, l'essence discontinue augmente de manière illimitée. Boèce explique « Toute multitude, en progressant d'un point, tend vers une augmentation sans borne. » Si l'on considère la troupe, le peuple ou le corps, on verra que chacun peut s'accroître dans le nombre de ses parties. N'étant qu'une collection d'éléments discrets, l'addition d'une unité n'en modifiera pas l'essence. À l'opposition entre le continu et le discontinu, la magnitude et la multitude, Boèce ajoute une distinction supplémentaire. Celle-ci concerne les diverses façons d'appréhender les deux essences par la pensée. Chaque type d'être se laisse saisir, selon l'une ou l'autre, de deux formes. Soit en lui-même, per se, soit par une autre, per aliud. La différence s'explique aisément. Un être continu, tel une ligne, une figure ou un solide, se définit comme une magnitude en soi, puisqu'il ne comporte de relation à rien d'autre qu'à lui-même. Mais il existe aussi des sphères en mouvement que l'on ne peut se représenter si ce n'est par rapport à autre chose qu'elle-même. Réciproquement, certaines multitudes n'existent qu'en elles-mêmes. En témoignent 3, 4 ou n'importe quel nombre qui, en tant que tel, ne manque de rien. Pourtant, de tels êtres idéaux peuvent se concevoir comme étant en rapport avec d'autres quantités de la même nature. Les inégalités arithmétiques en sont la preuve. La nature du double consiste précisément dans le rapport de 2 à 1. De même, l'identité du ce qui altère se retrouve dans le rapport de 3 à 2, et celle du ce qui tierce dans le rapport de 4 à 3. La doctrine des deux types d'essence n'était pas une invention de Boèce. Chez de nombreux penseurs néoplatoniciens, tels Nicomaque, Jamblique et Proclus, on retrouve une semblable taxinomie des objets mathématiques. Si la théorie boétienne des magnitudes et des multitudes mérite l'attention de l'historien, c'est surtout en vertu de la distinction disciplinaire qu'elle introduit. Car, développant l'idée ancienne d'un cycle d'études, Boèce déduit de la doctrine des essences les éléments qui lui permettront d'offrir une présentation systématique des diverses parties du savoir mathématique. Celles-ci sont au nombre de 4. Et prises ensemble, elles constituent un champ d'études auquel Boèce donne un nom nouveau. Ce sera le quadrivium. Chacune de ces parties se rapporte à une chose qui possède sa propre substance immuable. Autrement dit, toutes sont philosophiques ou plus simplement mathématiques. L'articulation comporte une symétrie évidente. Les magnitudes percées constituent l'objet propre de la géométrie. En revanche, les magnitudes per aliud relèvent de l'astronomie, science qui considère les êtres qui se déplacent continuellement à travers les cieux. Les multitudes percées, quant à elles, constituent l'objet de l'arithmétique. Quant aux multitudes per aliud, on apprend que ce sont les êtres propres à l'étude de la musique. Pour Boèce, musica nomme donc un domaine des études mathématiques, lequel considère des essences non moins idéales, nécessaires et immuables que celles qui relèvent de l'arithmétique, de la géométrie et de l'astronomie. Plus précisément, la musique constitue un savoir des multitudes, c'est-à-dire le corrélat nécessaire de ce savoir qu'est l'arithmétique. Les conséquences de ce fait sont d'une portée majeure, et pourtant moins évidentes qu'on ne pourrait le croire, ne fût-ce qu'à cause de ce mot équivoque, arithmétique. Les modernes entendent par ce vocable une technique, celle par laquelle on parvient notamment à déterminer une mesure à l'aide de chiffres. Mais les anciens avaient une toute autre compréhension de ce terme. À partir du moment socratique, en effet, la pensée grecque distingue deux usages de ces êtres abstraits que sont les nombres, les arithmoi. Celui qui s'identifie au savoir proprement arithmétique, c'est-à-dire l'arithmétiké, d'une part, et d'autre part, celui qui revient à la technique logistique, la logistiké. Au cours des siècles, cette distinction fut écrite de différentes manières. Cependant, elle demeura longtemps fondamentale. Par logistique, les Grecs s'entendaient l'art de calculer la quantité des choses au moyen des nombres. L'arithmétique était un savoir d'un autre ordre. Celui-ci concernait non pas l'usage correct des nombres, mais la connaissance de leur nature. Dans plusieurs de ses dialogues, Platon distingue nettement les deux domaines. Ainsi, dans un passage du Gorgias que l'on retrouve en partie dans le Charmide, Socrate affirme que l'arithmétique est la science qui prend pour objet le pair et l'impair, en référence à la quantité. En cela, elle s'oppose à la logistique, laquelle étudie le pair et l'impair en référence à la multitude qu'ils constituent, chacun en soi et chacun avec l'autre. L'interprétation de ces définitions est délicate. Plusieurs lectures en ont été proposées. Mais il est certain que les affirmations platoniciennes évoquent du moins ces deux appréhensions du nombre. Celle qui voit dans le nombre une pure quantité, le pair et l'impair, en référence à la quantité, et celle qui considère le nombre dans sa composition au sein des multitudes, c'est-à-dire le pair et l'impair, en référence à la multitude qui constitue chacun en soi et chacun avec l'autre. La distinction se fait plus nette chez les néoplatoniciens. Ces derniers opposaient les nombres considérés comme des purs objets de pensée, comme des noëta, aux nombres pris comme objets impurs des sens, aestheta. L'arithmétique contemple les premiers, mais la logistique manie les seconds. Dans son commentaire d'Euclide, Proclus opère en ce sens une distinction entre les deux savoirs, en affirmant que celui qui possède le savoir logistique étudie non pas les propriétés des nombres, comme ils sont en eux-mêmes, mais il étudie les nombres dans les objets perçus. Dans une glose anonyme au Charmide, l'on retrouve un enseignement similaire. La logistique, peut-on lire, s'occupe de ce qui se compte, mais non pas du nombre, ce nombre qui en est vraiment un. Et Olympiodore, dans son importance colliée au Gorgias, de préciser, il faut comprendre la distinction suivante. L'arithmétique est consacrée aux variétés du nombre, la logistique est vouée à leurs matériaux. Lorsque Boèce établit une corrélation entre la musique et l'arithmétique, il rapproche donc l'étude du son, non pas du calcul, mais du savoir des nombres. Seules les questions relatives à l'essence de l'arithmos, telles la nature du pair et de l'impair, s'inscriront dans cette arithmétique, toute considération relative à l'emploi du nombre lui étant dès lors extérieure. Pourtant, pour saisir la nature mathématique de la musique telle que la concevaient les pythagoriciens, il faut encore comprendre davantage. Il est nécessaire de dissiper l'homonymie fondamentale qui affecte le nom de nombre. Il y a de bonnes raisons de soutenir qu'en invoquant arithmos et numéri, les auteurs anciens désignaient des êtres distincts de nos nombres modernes. La première de ces raisons suit de la définition du numerus comme multitude. Cette caractérisation exige que tout nombre ancien soit essentiellement disjoint et déterminé dans ses parties, comme s'il se réduisait à une seule union collective, comme une troupe, un peuple, un corps, un tas de choses, dont les parties se terminent dans les extrémités, se distinguent dans les extrémités d'autres parties. Autrement dit, tout numerus est discret et discontinu. Bref, il est entier. Une conséquence importante s'impose alors. Toute quantité qui ne saurait s'exprimer par des nombres naturels ne sera pas arithmétique. De la formule boétienne procède aussi une deuxième divergence entre les arithmos anciens et les nombres modernes. Discontinu dans sa totalité comme dans ses parties, l'arithmos constitue une collection d'unités. En toute rigueur, ce fait possède un simple corrélat, dont on ne saurait surestimer l'importance. C'est que le nombre classique est toujours plus qu'un. Longtemps avant Boèce, on pouvait déjà le dire chez Aristote, ce dernier notait que le plus infime des nombres, c'est 2. Car seule l'unité est indivisible elle-même, l'un est inférieur à lui. Euclide lui-même n'enseignait pas autre chose au commencement de son livre sur les arithmoi. Et nombre, ce qui se compose d'unités. Pour les auteurs antiques et médiévaux, les numéri ne peuvent être que des ensembles de deux éléments distincts, ou davantage. On objectera sans doute qu'une telle arithmétique est idéale et abstraite. Car où donc, par le monde, pourrait-on trouver des collections disjointes et déterminées dans leurs parties, comme si elles se réduisaient à une seule union collective, dont chaque membre serait absolument discontinu par rapport à tous les autres? La continuité, a-t-on dit, est la loi de la nature, qui ne fait pas de saut, et le monde semble issu de ces continuités que l'on appelle magnitude. En effet, que les numéri classiques soient idéaux, cela ne fait guère de doute. Immuables, ils ne dépendent pas des corps et des événements sensibles, même si, pour se présenter à notre perception, ils doivent peut-être se matérialiser. Pourtant, pour un penseur classique ou médiéval, ces essences ne sauraient être dites irréelles en vertu de leur éternité. Bien au contraire, selon ce qu'il est convenu de désigner du nom d'axiomatique antique, seul le nécessaire et l'immuable est objet de la science certaine. Conséquemment, cela seul dans l'épistémé des anciens est réel. De plus, il est douteux que les nombres de l'arithmétique classique, quoique idéaux, soient véritablement abstraits. Car à la différence des signes familiers aux mathématiques modernes, les numéris classiques signifient non pas des rapports symboliques entre quantités quelconques, mais des êtres actuels. Dans un ouvrage important, Jacob Klein a très clairement démontré cette thèse. Les arithmoïdes sont des quantités définies de choses définies, tous réductibles en tant que multitude à cette essence indivisible qu'est l'unité ou la monade, la forme de l'un. Cependant, pour les pythagoriciens, la réalité des mathématiques n'avait pas à être démontrée à force d'arguments, car les essences idéales s'avéraient. Dans le domaine des quantités continues, l'astronomie en offrait la preuve. Dans le ciel, les corps astraux se soumettaient aux lois de la magnitude. Pour un pythagoricien ancien, il existait du moins sept confirmations des régularités géométriques, ne fût-ce qu'au-delà de la Lune. Mais la preuve décisive de l'actualité des essences était à chercher, non pas dans les magnitudes, mais dans les multitudes. On avait beau observer les quantités continues dans les cieux, des quantités discontinues se percevaient ici-bas. Dans les faits acoustiques, les sens des nombres se laissaient détecter et les lois arithmétiques se rendaient ainsi audibles. L'expérience dans la forge avait révélé cette vérité. Le livre de la nature était écrit dans les lettres de l'arithmétique. En l'espace de 2 millénaires, les penseurs ont étudié les pages de ce livre, en glosant les lettres qu'ils y trouvaient inscrites. De l'époque de Philolaos jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'acoustique demeura le domaine de la philosophie naturelle, où l'on pouvait montrer, de manière précise, que des multitudes idéales s'enracinaient dans les corps de ce monde. Au centre de cette tradition, Boèce exprima bien ses aspirations philosophiques. Redécouvert à l'époque carolingienne, son traité de musique devint la source principale des études médiévales en la matière et assura une longue vie au pythagorisme en harmonie. Trois conséquences devaient s'en suivre pour l'étude des sons, des maîtres et des nombres. Toutes trois se déduisent de la corrélation entre musique et arithmétique. De prime abord, les êtres harmoniques se définiraient par leur discontinuité. Qu'il s'agit de tons, de durée, de strophes, d'accents ou de syllabes, ces données seraient toutes considérées comme disjointes par leur nature même. De là la décision fondamentale que prit la musique médiévale lorsqu'elle développa son nouvel art d'écrire. Ton, et ensuite durée, seraient conçus dans leur discontinuité, c'est-à-dire dans la forme de collections composées d'unités, semblables en cela aux troupeaux, aux peuples et aux chœurs, dont les parties se terminent dans leurs extrémités et se distinguent des extrémités d'autres parties. Réciproquement, les quantités continues seraient exclues du savoir de la musique, qui aurait pour objet les multitudes, non les magnitudes, et qui rapporterait les numéris les uns aux autres. Les deux autres conséquences sont plus fines, mais non moins cruciales. De même qu'en arithmétique, les nombres se définissaient comme les collections disjointes d'individus, en harmonie, les intervalles seraient traités comme des ensembles composés d'unités additionnées. En musique, une unité de base se laissait aisément identifier. Il s'agissait bien entendu du ton entier. Plusieurs données acoustiques et esthétiques témoignaient de sa singularité. Selon le manuel d'harmonie de Nicomaque, Pythagore, en rentrant dans sa demeure, avait observé que l'octave, la quinte et la quarte sont agréables à l'ouïe. De plus, il notait que leurs combinaisons étaient toutes également plaisantes en elles-mêmes, à une exception près. Ce qui gît entre la quarte et la quinte, écrit Nicomaque, est dissonant en lui-même. Cet intervalle n'est autre que celui du ton entier. Dans un fragment conservé par Théon de Smyrne, Thrasyle de Mendès, auteur du 1er siècle, commente ce constat. Les sons sont dissonants si l'intervalle entre eux est celui d'un ton, note-t-il, car le ton est la source de la concorde, mais il n'est pas lui-même concorde. Tout comme la monade de l'arithmétique se distingue de ses multitudes qu'elle compose, Ainsi, le ton entier de la musique se laisse aussi percevoir en lui-même. L'un est le multiple, l'unité est la collection, tous deux se discernent à l'ouïe. Une fois encore, le domaine du son exhibait la loi des multitudes. De cette distinction se déduit la troisième et ultime conséquence de la définition de la musique, comme savoir mathématique noué à l'arithmétique. À la suite de Pythagore, les théoriciens antiques et médiévaux des sons nombrés choisirent de respecter la limite que leur imposait l'ancienne théorie des numéri. En musica comme en arithmetica, on s'accordait à penser que toute collection devait être collection de quelque chose. Plus précisément, une collection de choses disjointes. Qu'ils considérassent des multitudes per se ou des multitudes per aliud, qu'ils réfléchirent au nombre en eux-mêmes ou au nombre dans le son, les pythagoriciens comptaient toujours un par un, guidés par l'idéal de l'unité. Cet ultime élément de la quantité, comme l'a défini Jean Blic, cette première et commune part qui n'est autre que la source de la quantité. Respectueux de cette source, les penseurs médiévaux aussi refusaient d'accepter qu'il pût exister, en arithmétique comme en musique, des choses irréductibles à l'unité, des êtres absolument incommensurables à l'un. Pourtant, leurs recherches acoustiques contestaient cette ancienne croyance. À plusieurs reprises, et presque malgré eux, les disciples de Pythagore rencontrèrent des phénomènes sonores qui éludaient toute saisie arithmétique. Des êtres qui ne se comptaient pas un par un et qui n'étaient pas des multitudes. Alors, il devint impossible d'esquiver le choc de cette rencontre. Les nombres anciens se heurtaient à un être pour eux indéchiffrable, mais qui n'en était pas moins bien réel. Confrontés à cette nature incommensurable, les auteurs classiques furent tentés de le mitiger et par diverses stratégies. Mais leurs efforts ne parvinrent jamais à dissiper cette possibilité troublante. Qu'au-delà ou en deçà de tout rapport de multitude, il demeure dans le cosmos un être incomptable, témoin de la disharmonie du monde. Pythagore ne l'avait-il pas entendu ? Au vrai, il n'y a pas d'illustration plus exacte de son projet et de ses limites que la fable de l'invention de la consonance. Dans la forge, le maître grec avait rencontré des corps sonores qui se ramenaient à quatre termes arithmétiques, lesquels correspondaient au poids respectif des quatre marteaux pesés. 12, 9, 8, 6. En se limitant à ces nombres entiers, Pythagore avait pu exprimer les rapports qui, sur son monocorde, produisaient les intervalles reconnus par l'harmonie grecque. Pour émettre le son de l'octave, il suffit de faire vibrer une corde d'une mesure de 12, et puis une autre d'une mesure de 6. Pour produire une quinte, on choisira soit une corde d'une mesure de 9 contre une d'une mesure de 6, soit une d'une mesure de 12 contre une autre d'une mesure de 8. Et enfin, pour exprimer la quinte, on fera vibrer une corde d'une mesure de 8, puis une d'une mesure de 6, ou bien une d'une mesure de 12, puis une autre d'une mesure de 9. Ces divers rapports reflètent trois relations plus simples. 12 à 6 se dit également 2 à 1. 9 à 6 ou 12 à 8 se dit 3 à 2. Et 8 à 6 ou 12 à 9 se dit aussi 4 à 3. Bref, les trois intervalles acoustiques fondamentaux, l'octave, la quinte et la quarte, s'expriment par le moyen des quatre premiers nombres naturels. À eux seuls, ces termes semblent suffire à l'analyse de la consonance dans la forge. On comprend que les disciples de Pythagore aient accordé de l'importance à cette série des quatre termes arithmétiques. Les adeptes y trouvèrent les éléments d'une quadriplicité cosmologique qu'ils nommèrent tétractus. À maintes reprises, ils notèrent ce que cette série avait d'unique. La somme de ces nombres engendre la décade, fondement de tout décompte supplémentaire. Leur représentation en points compose le triangle équilatéral. Et à chacun de ces nombres fut attribuée une portée spécifique. Ainsi, Spesip enseigna-t-il que le point est 1, la ligne 2, le triangle 3, la pyramide 4. Si l'on se fie à un document pythagoricien de l'époque alexandrine, les quatre nombres firent très tôt l'objet d'un serment sacré. Non, je jure par celui qui a transmis à notre âme la tétractus, en qui se trouve la source et la racine de l'éternelle nature. Mais en vérité, cet ensemble de quatre était lacunaire, et ce, dès le début. Dans la forge, la transcription restait obstinément incomplète, puisqu'il y avait un corps sonore que Pythagore avait omis de prendre en compte. En évoquant les instruments qui produisaient la consonance merveilleuse, Boès observe, or, il se trouvait que les marteaux étaient au nombre de 5. Le poids respectif de chacun, à l'exception d'un seul, se notait au moyen des 4 premiers nombres naturels. Mais il y en avait encore un 5e. Boès ne consacre qu'une seule phrase au destin de cet outil disharmonieux. Le 5e marteau fut laissé de côté, étant dissonant à l'égard de tous. Quintus vero est reiectus, quicunctis erat in consonans. Soudaine, certaine et irrévocable, cette mise à l'écart mérite la plus grande attention. Quel était ce 5e marteau pour que Pythagore décidât ainsi de le rejeter à jamais? À cette question, Boès n'offre qu'une réponse on ne peut plus concise et son sens n'est guère limpide. Le 5e marteau, écrit-il, était dissonant à l'égard de tous. Mais cette proposition appelle une question à son tour. Car en quel sens les 4 peuvent-ils être dits tous si quelque chose leur est si dissonant? Sans doute ce dernier marteau trahit-il l'ensemble des autres. Mais comment? On songe à 2 lectures possibles qui mèneraient à des interprétations distinctes et même contradictoires de la scène. Les premiers lecteurs de Boès auraient-ils pu imputer l'imperfection de ce 5e instrument au monde d'ici-bas et non à Pythagore? Une telle supposition serait adéquate à certains principes du savoir antique. On se souviendra que les philosophes classiques cherchaient, en règle générale, à discerner des lois naturelles qui fussent éternelles, immuables et nécessaires. Mais ces mêmes penseurs admettaient aussi que les choses particulières sont corruptibles, transitoires, et résistent en conséquence aux prises de la science. Rien n'est tardi d'imaginer que le 5e marteau soit compris comme l'une de ces choses singulières. S'il en fut ainsi, ce dernier instrument eût témoigné des bornes de notre sphère sublunaire, où aucune certitude ne se déduit des savoirs naturels. Pourtant, il est aussi une seconde solution, qui accuserait le premier théoricien expérimentateur, le grec, astucieux mais primitif. On conclurait alors que le calcul était incomplet. D'observation ou de méthode, l'imprécision était manifeste. Car si son analyse eût été correcte, elle aurait été sans reste. Une science digne de ce nom, n'admettant pas d'exception. Ces solutions sont fort raisonnables, mais chacune a son obscurité. Quel est au juste le monde du savoir ancien? S'il permet, s'il exige peut-être, un son dissonant à l'égard de tous les autres. Et quel est l'univers de cette science moderne, si nulle partie incontée ni murmure? Sur la raison d'être du 5e marteau, on ne peut qu'avancer des hypothèses. Mais une chose est sûre, quoi qu'il n'ait pas inclus ce dernier élément dans ses équivalences du son et du nombre, Pythagore l'avait bel et bien perçu. Boès, à ce sujet, ne laisse guère de doute. Immobile devant la forge, comme saisi d'une inspiration divine, le sage avait entendu, dans la diversité des coups de marteau, un seul accord. Le 5e instrument avait alors résonné. Pythagore avait-il été insensible à ce marteau sans maître? Rien de plus énigmatique, en effet, que cet objet sonore, produisant un seul accord avec tous les autres, sans pour autant cesser de leur être dissonant. Seule une pulsion géniale aurait pu le guider vers ce mystérieux quintet. Certes, son moment d'inattention fut bref, mais les enjeux de cet événement, quant à eux, seraient durables. De retour en sa demeure, Pythagore eut beau rejeter tous les instruments au profit de ses recherches. Obscurément ou distinctement, ne fût-ce qu'un instant, le maître avait, oui, un être sans mesure. Il est difficile d'imaginer qu'il n'y songea plus jamais. Mais on sait que ses disciples, et Boès au premier chef, s'efforcèrent d'appréhender ce bruit. Une fois transcrite comme un son auquel nul numerus ne pouvait correspondre, Cette même résonance allait attirer d'autres écrivains dans la forge. Longtemps après Pythagore, des penseurs, des musiciens et des poètes y pénétreraient à leur tour. Ils y apprendraient à entendre une musique dans la nature, dans le chant et dans la parole. Et, fidèles et infidèles à leur ancien maître, ils parviendraient ainsi, par de nouvelles écritures, à noter cette disharmonie du monde qui sans cesse se dérobait.